Hervé Gourriot, je suis le délégué d'Entreprises et Progrès. Auparavant, j'ai dirigé une entreprise très internationale. Ce que je voulais exprimer, c'est un petit peu ma déception par rapport au livre de Philippe Diribarne et par rapport au débat d'aujourd'hui. Parce que, juste avant le dernier chapitre de votre livre, je m'attendais à ce que vous mettiez un peu plus les pieds dans le plat. Il y a effectivement une contradiction interne que nous vivons tous, qui est l'attachement à certains idéaux républicains, et d'autre part, le culte des différences, des distinctions et de la hiérarchie sociale au niveau le plus fin. Alors la question que je me pose aujourd'hui, c'est en écoutant un peu votre débat, c'est de ne pas voir émerger le conflit qu'il peut y avoir entre une aspiration sociale et une volonté de l'État français. L'État républicain français défend son modèle, et il le défend avec beaucoup d'énergie, comme l'a dit Louis Schoeffer. Et donc, effectivement, je crois qu'il faut, à un moment donné, mettre les pieds dans le plat et dire que la société résiste à cela. Et ce conflit, il faut évidemment le traiter. Alors comment le traiter ? Est-ce que l'État est le mieux placé ? Ma conviction profonde, c'est non. L'endroit où ça peut se passer, c'est d'abord dans les entreprises, parce que dans les entreprises, on ne cherche pas à l'intégration. Là, maintenant, le mot d'ordre, c'est de chercher la diversité. C'est la diversité qui va provoquer l'innovation, c'est bien que c'est la diversité qui reflète les clients. Renault a un président extraordinairement représentatif de cette diversité. Donc, si vous voulez, la diversité, c'est quelque chose de bon. Et la communauté, enfin, maintenant, c'est pas non plus... Enfin, j'étais aussi assez frappé dans votre débat de voir qu'on glissait très vite communauté, communautarisme. Vous venez juste de corriger le tir là-dessus, mais il est évident que les communautés sont un tissu extraordinairement vivant pour corriger cela. On ne peut pas demander aux Français à la fois de viser la diversité et de viser l'intégration. On est en pleine contradiction permanente. Donc comment les surmonter ? Ben c'est, comme toujours, c'est le marché qui résoudra ça.
Je suis pas sûr, pardon, que le marché il suffise. Je pense qu'il faut aussi quelquefois des lois. Je vais prendre un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est l'histoire du foulard à l'école. Au fond, on peut dire que cette loi qui dit à l'école primaire et secondaire publique, pas de foulard, à l'université, un foulard, fixe une frontière totalement arbitraire. Elle fixe un point d'équilibre contestable entre le port de signes religieux autorisés et celui qui ne l'est pas. Ce point aurait pu être fixé ailleurs, mais je pense qu'il relevait de la République de le faire. Et ce que je constate, c'est que ça a résolu plus de problèmes que ça n'en a créé. Et je constate aussi que le législateur, dans sa grande sagesse, a décidé de ne pas légiférer sur les signes religieux dans l'entreprise, alors que certains l'y poussaient. Donc au fond, je crois qu'il faut que la loi définisse des frontières qui, même si elles sont arbitraires, ont, comme les frontières entre États, la vertu de faciliter la paix.
Je crois que ça aurait été illusoire de vouloir terminer en disant « ça y est, j'ai une solution clé en main et je vais vous dire comment vous allez résoudre vos problèmes ». Enfin, ça aurait été, je ne vois pas. Mais quand on voit c'est aussi bien les problèmes qu'ont, comme l'a évoqué Louis Schoeffer, les sociétés qui croyaient, elles, avoir résolu les problèmes, comme les Néerlandais, comment ils se retrouvent actuellement, enfin, je crois que bien fou serait qui dirait « maintenant, j'ai trouvé ».
Jean Salmona. Je crois que parmi les choses qui ont été dites tout à l'heure, il y en a qui relèvent de ce qu'on appelle en anglo-saxon le wishful thinking. C'est bien de penser qu'on va pouvoir modifier les comportements, mais on ne modifie pas facilement les comportements si jamais on arrive un jour à les modifier. Et en tout cas, je trouve qu'on a fait trop rapidement le lit de l'intégration et qu'on a balayé l'assimilation. Je voudrais très rapidement raconter une histoire personnelle de ma famille. Je suis fils d'immigrés, mes parents sont arrivés en France vers les années 20 et leur famille avait pris des décisions très précises, très pratiques qui étaient, premièrement, on va loger dans un immeuble où on sera les seuls de notre origine et si possible les seuls immigrés. Deuxièmement, on va abandonner tout signe extérieur qui dénote de notre origine non française. Troisièmement, le langage d'origine est interdit à la maison. Quatrièmement, nous-mêmes, qui avons l'habitude de parler français avec un accent, on va essayer par beaucoup d'efforts le soir, d'abandonner notre accent de façon à pouvoir parler français comme des Français. Cinquièmement, nous allons abandonner nos prénoms. Bien sûr, pas seulement on donnera des prénoms aux enfants, des prénoms français aux enfants, mais nous abandonnons nos prénoms d'origine. Bien sûr, on ne refuse pas notre culture d'origine, mais ce sera de nature historique et non pas de nature ostentatoire. Ah pardon, j'ai oublié un élément également essentiel. On va cuisiner comme tout le monde et en l'occurrence, on abandonnera les interdits alimentaires qui existaient. Je trouve que ce modèle de l'assimilation fonctionne. Il a fonctionné en tout cas pour ce qui concerne ma famille et j'ai vu autour de moi qu'il fonctionnait. Pourquoi renoncer à ce modèle de l'assimilation étant donné que d'après tout ce que vous avez raconté, je pense à l'histoire de ce couple communiste qu'évoquait Bourdieu, les rejets sont de nature émotionnelle, alors que le désir de prendre l'autre tel qu'il est de nature rationnelle, et on ne peut pas arriver à combiner l'émotionnel et le rationnel.
Je parle sous le contrôle de Philippe Diribal, mais il me semble que c'est ce qu'il décrit dans son livre comme la stratégie discrète et patiente. Modèle d'intégration discret et patient, c'est ça?
Non, mais la question est de savoir s'il faut imposer une assimilation. Il ne s'agit en aucun cas de l'interdire.
Non, bien sûr.
Il s'agit mais de c'était... laisser une liberté.
Il disait que c'était un choix. Les immigrés s'intégraient bien du moment qu'ils le faisaient discrètement et patiemment. C'est ça que j'ai compris. Mais enfin, il vaut mieux demander à l'auteur sa propre interprétation.
Effectivement, enfin, je rejoins les Schweitzer. Ce qui me semble, c'est que pendant toute une période, Jean Daniel, par exemple, s'est très bien exprimé aussi, a exprimé des choses très très proches de ce que vous dites. Là, ce type de volonté était majoritaire, premièrement, et deuxièmement, ne se heurtait pas à des impossibilités. C'est-à-dire que celui qui, de même, je ne sais pas, que par exemple, personnellement, je suis à la fois basque et français. Bon, le Pays basque a été effectivement rattaché à la France en 1789, donc depuis déjà un bon bout de temps. Mais on ne me demande pas de cesser d'être basque pour être français. On ne me demande pas d'abandonner mon nom basque pour que je puisse me sentir tout à fait français. Et finalement, beaucoup de Français sont dans la même situation. Alors, la question qui se pose actuellement, c'est que je ne suis pas sûr que la volonté de s'assimiler, puisque vous utilisez ce terme, disons, est disparue. Mais je pense que les conditions de possibilité de ce type de stratégie sont devenues beaucoup plus difficiles qu'elles ne l'étaient par le passé. Parce qu'à la fois, les origines sont différentes, parce que donc ce qu'il faut sacrifier pour être considéré comme un Français standard, disons, est plus grand. Tu évoquais tout à l'heure bon, le fait de passer de Luigi à Louis ou de passer de Pedro à Pierre, etc. Pareil que de passer de Mohamed à Jean-Luc. C'est pas la même. Alors, on parlait des Asiatiques. Je crois que le problème des Asiatiques est différent. Si j'ai bien compris le rôle du prénom dans les pays asiatiques, c'est normal d'avoir toute une série de prénoms, d'utiliser l'un ou l'autre. Et que même, très souvent, en Chine même, ils vont utiliser des prénoms occidentaux pour leur rapport avec les occidentaux. Donc on a toute une série de conditions qui font que c'est ouvert, enfin en quelque sorte, un fossé entre des exigences du corps social qui restent effectivement assez proches de ce que vous indiquez, et d'un autre côté, des possibilités de satisfaire à ces exigences du corps social pour toute une partie de la population issue de l'immigration. Je pense que c'est là qu'est une bonne part du cœur de notre problème.
Alors, on approche de la fin, donc on va poser deux questions.
Bernard, bien, je vais faire deux ou trois remarques. Pour M. Rivlin, je me permets de signaler qu'il a parfaitement décrit le premier épisode de la Fondation de Rome, mais immédiatement après le meurtre du frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le deuxième épisode, c'est l'ouverture de Rome à tous les brigands des environs, à tous les nomades et à tous les hors-la-loi des environs. Et Rome a été fondée par des immigrants. Ceci est rappelé par tous les historiens, Machiavel, Montesquieu, etc. Deuxième remarque, aussi historique, et je m'en excuse, mais je voudrais dire à M. Ribarne qui a fait allusion à la loi de 1870 appelée décret Crémieux. Je n'ai pas creusé les attendus du décret, mais je crois tout de même savoir que c'est très intéressant parce que vous avez dit qu'on avait donné en 70 la nationalité française à tous les juifs d'Algérie et qu'on n'avait pas pu la donner aux Arabes à cause de leur statut personnel. Je crois savoir que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Je crois savoir que nous avions été battus, les Alsaciens-Lorrains refluaient sur la France, beaucoup d'entre eux souhaitaient aller en Algérie, sont allés en Algérie, et pour faciliter leur intégration à l'Algérie, on a à ce moment-là décidé de donner la nationalité française à tous les juifs d'Algérie. On n'a pas ouvert un débat avec les Arabes pour savoir si oui ou non leur statut personnel, ils y tenaient au point de refuser la nationalité française. On a donné aux Juifs d'Algérie, pour des raisons contingentes et momentanées, le statut de Français. Et ça a eu quand même des effets pendant très longtemps. Alors, troisième remarque, on a parlé de l'école. On a parlé de l'armée. Et je crois en effet que ces deux institutions étaient capitales dans l'intégration, qu'elle soit par assimilation, qu'elle soit par intégration ou qu'elle soit par absorption des communautés partielles. Je ferai remarquer qu'il y a un point commun à ces deux institutions, telles qu'elles existaient, je les ai connues toutes les deux, c'est qu'il y régnait l'autorité. L'autorité n'est pas l'obéissance absolue. L'autorité, c'est auctoritas. C'est ce qui a un poids qui s'impose de lui-même. Or, l'école française a perdu l'autorité, ceci est bien connu pour des raisons pédagogiques très connues. Quant à l'armée, on a décidé, pour des raisons que je comprends d'ailleurs, de passer à l'armée de métier parce qu'elle était refusée par la société dans son ensemble.
Alors, on va te solliciter la capacité d'intégration de la complexité des orateurs. Ils répondront en bloc à toutes les questions qui viennent. Donc.
Patrice Dunoyer, tout à l'heure, M. Rivlin a dit, avec certaines précautions d'ailleurs, que l'égalité, au fond, était un mythe. Toute société, du reste, est fondée sur des mythes, c'est-à-dire non pas sur des choses qui s'appliquent définitivement, immédiatement, mais sur des choses qui font rêver et qui permettent de souder la société. Est-ce que aujourd'hui, où ce mythe de l'égalitarisme ou de l'égalité est devenu en partie inopérant, parce que tout le monde a fini par remarquer qu'il n'existait pas, enfin, qu'il n'avait aucune application réelle, est-ce qu'à un certain moment, ce type de mythe ne devient pas contre-productif ? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne produit pas chez les gens l'idée qu'ils sont piégés dans un discours faux ? Et que par conséquent, ça remet en cause, en même temps, les principes de la République qui ont été abondamment évoqués ce soir.
François Veil.
On a évoqué à différentes reprises le succès du modèle de l'instruction publique de la Troisième République comme support à l'intégration de cette période. Je pense qu'il y en avait deux autres qui étaient l'armée, déjà évoquée par un précédent orateur. Et il y en a un troisième qui pose un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'était la structure familiale. Les structures familiales, d'ailleurs, y compris dans les milieux maghrébins jusqu'aux les années 60, étaient fortes et encadraient leur progéniture pour qu'ils s'intègrent, justement, par la promotion sociale, les études, etc. La déstructuration grave des structures familiales, spécialement dans les banlieues à dominante maghrébine, parce que c'est là qu'il y a du chômage et que les pères perdent l'autorité parce qu'ils sont chômeurs, je ne vais pas rentrer dans des choses qui ont été amplement développées par Juliette Mince notamment, mais c'est un élément important de cette non-intégration. Donc qu'est-ce qui reste ? L'armée, ça m'étonnerait qu'on puisse revenir à un service militaire. La famille, on ne peut pas décréter la restructuration des familles. Il reste l'enseignement. Et l'enseignement sur le modèle des hussards de la République, de la Troisième République. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut mettre le maximum de moyens.
En même temps, on aurait pu parler des activités collectives, du sport, etc. Bon, dernière intervention et après, conclusion des orateurs.
Adrien Majol, étudiant à Sciences Po. C'est Lévi-Strauss qui écrit dans Triste Utopie qu'on est tous poussés à considérer l'autre comme un ennemi, un peu. Et alors, je me demandais si le véritable point d'achoppement de l'intégration en France, il n'est pas davantage social et plus particulièrement économique, que réellement lié à l'immigration et lié à des critères migratoires. Est-ce que ce n'est pas par une action économique pour lutter contre les ghettos qu'on pourrait trouver un réel levier dans l'intégration en France ?
Alors je propose aux trois orateurs de conclure en répondant dans l'ordre usuel.
Bon, je commence. C'est vrai que l'égalité est sans doute un mythe, ça a été dit à plusieurs reprises. Est-ce qu'il faut pour autant y renoncer ? Bon, je ne crois pas. La liberté, c'est aussi un mythe. La fraternité, c'est aussi un mythe. Ça n'empêche pas qu'il faut essayer d'y tendre. Et franchement, j'aurais du désespoir si on ne tendait pas à donner de la réalité à ces trois mythes en sachant qu'on ne sera jamais au bout de nos peines et qu'on n'arrivera jamais au but. Donc, c'est répondre à une question qui a été posée. La seconde remarque, de façon évidente, il faut faire plus sur l'intégration sociale et toutes les mesures positives ou l'action positive pour laquelle je plaide est fondée sur des critères sociaux et pas sur des critères ethniques ou religieux qui ne seraient d'ailleurs pas accepté par notre société. Donc, plus on fait pour l'intégration sociale, mieux on résout le problème des immigrés. Mais il ne suffit pas d'agir sur l'intégration sociale pour que, automatiquement, les problèmes liés à l'immigration soient résolus.
Je voudrais faire observer que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit doit s'accompagner, mais ce n'est pas écrit, du fait qu'ils naissent ainsi solitaires. Parce que dans une famille, on n'est ni libre ni égaux en droit, c'est peu de le dire, puisqu'il y a l'autorité, les aînés, les seconds, les garçons, les filles, etc. Dans un orchestre, on n'est ni libre ni égaux en droit, c'est peu de le dire. Le chef d'orchestre fait lever tout le monde en même temps et désigne celui qui va jouer après. Dans une équipe de foot, Dieu sait si l'on en parle, on n'est ni libre ni égaux en droit. Or, les gens souffrent énormément de solitude. Donc je pense que liberté et égalité ne sont pas des idéaux, c'est des choses que l'on perçoit quand on en manque. C'est-à-dire que lorsqu'on sent qu'on est brisé dans son aspiration à la liberté et qu'on est refusé pour des raisons d'inégalité, c'est là que c'est insupportable. Mais ce n'est pas un idéal en soi. C'est une chose qui exprime un refus. Et en fait, tant qu'à choisir entre liberté, égalité et fraternité, je pense que c'est la fraternité qui aura le privilège.
Un dernier mot. Un problème français par rapport à ça, puisqu'au fond, on vous avait parlé aussi spécialement de la France, c'est que dans ce domaine, dans tous les domaines, les Français sont à l'aise dans une situation dans laquelle on peut faire un beau plan et dans laquelle on applique ce plan. Alors, quand on est dans des situations comme celle-là, où il est clair qu'on est amené à bricoler des côtes mal taillées entre une certaine pression assimilatrice, mais quand même pas trop, entre une lutte contre les discriminations, mais qui est consciente de ses limites et qui doit être réaliste, entre la nécessité, effectivement, beaucoup évoquée, de refaire une école un peu plus musclée, qui éduque plus qu'elle ne le faisait, mais en tenant compte, avec réalisme, des visions idéologiques du corps enseignant, etc. C'est bien difficile de dire on va faire un beau plan et puis on va l'appliquer. Je crois qu'on est rentré dans un processus, comme a été le processus à travers lequel s'est édifié, et ça a pris extrêmement longtemps, toute la législation du travail, comme le processus à travers lequel s'est édifié, et ça a pris extrêmement longtemps, les institutions de la République. N'oublions pas qu'entre 1789 et l'instauration de la Troisième République, qui a marqué la stabilité de l'institution républicaine, il y a eu près d'un siècle. Donc on est dans un processus qui est un processus qui va continuer certainement pendant des années, des dizaines d'années, à aller cas à cas, et dans lequel, au fond, je crois que j'espère, et je voudrais remercier les Bernardins à l'École de Paris, que notre débat contribue à un titre certes modeste, mais j'espère utile, à ce processus, qui est un processus qui va encore se dérouler pendant bien longtemps.
Nous pouvons continuer les conversations au buffet. Merci. Merci.